émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Ce matin, nous lançons le débat sur la grève des fonctionnaires au Tchad. Ils sont en colère et ils ont décidé lundi de poursuivre leur grève entamée il y a maintenant 4 mois pour dénoncer les mesures d'austérité. Je vous rappelle qu'en début d'année, leurs salaires ont été réduits de 20%. Les primes et les indemnités ont quant à elles été divisées par deux. Et pour justifier toutes ces mesures impopulaires, eh bien le gouvernement invoque la situation économique. Du coup, pour l'instant, eh bien le gouvernement se contente de leur demander de reprendre le travail avant d'envisager des négociations. Alors que vous inspire ce bras de fer? Quelle solution pour mettre un terme à cette grève qui s'éternise? D'ailleurs, dites-nous quelles conséquences cette grève a-t-elle dans votre vie quotidienne? Car qui dit grève des fonctionnaires dit fonctionnement, dit évidemment une administration qui fonctionne au ralenti, pas d'école, des hôpitaux certes qui fonctionnent mais avec un service minimum. Appelez-nous, vos témoignages, vos réactions, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Olivier Roger du service économie de RFI est à mes côtés. Bonjour Olivier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
On a reçu des questions après ce projet annoncé la semaine dernière par le président de la Commission européenne de créer une alliance, une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. Al Mokhtar, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour les auditeurs.
Merci de nous accueillir à Bandiagara au Mali, nous vous écoutons.
Alors, l'Union européenne a décidé de souhaite créer une nouvelle alliance avec l'Afrique. Et dans cette alliance, elle veut créer 10 millions d'emplois en Afrique. Alors, question, quels sont les secteurs concernés par ces emplois? Et comment elle va s'en prendre pour les créer?
Alors, Olivier Roger, créer jusqu'à 10 millions d'emplois en 5 ans, c'est un projet évidemment très très ambitieux. Comment Jean-Claude Juncker compte-t-il relever le défi?
Alors, pour l'instant, on sait assez peu de choses sur cette alliance annoncée par le président de la Commission de l'Union européenne. Par contre, on en sait un peu plus sur son approche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean-Claude Juncker a une approche très économique des relations entre l'Europe et l'Afrique, et sa conception économique est foncièrement libérale. Dans son esprit, et c'est ce qu'il avait affirmé lors du sommet entre l'Union européenne et l'Afrique à Abidjan en début d'année, il faut passer d'une relation politique à une relation économique, et c'est notamment ce que réclament certains présidents africains comme Paul Kagame, le Rwandais. Ça veut dire à ses yeux, aux yeux de Juncker, qu'il faut renoncer à la promotion de valeurs politiques comme la démocratie, renoncer à tout regard critique sur les problèmes sociaux au profit en fait d'un mercantilisme pur et simple, comme le font par exemple les Chinois. Voilà en fait la véritable ambition de Juncker, moins d'aide au développement, davantage de commerce, davantage d'affaires. Alors bien évidemment ça arrange certains chefs d'État, mais pas forcément tout le monde sur le continent, notamment les sociétés civiles ou certaines personnes qui ont une vision différente des choses. Et d'ailleurs c'est une vision mercantile qui agace beaucoup la gauche européenne au Parlement à Strasbourg, qui estime que les relations entre les deux continents ne doivent pas se limiter au seul domaine économique. Alors, concernant ce plan évoqué par Jean-Claude Juncker, et qui est encore assez flou, pour lequel on a peu de détails, on sait que la Commission européenne travaille actuellement sur la façon de redéployer les moyens alloués par l'Union européenne à l'Afrique en direction des entreprises. On sait que chaque année, l'Union européenne verse, tout secteur confondu, à peu près 30 milliards d'euros aux pays africains. Il voudrait, Juncker, les réorienter vers les entreprises, c'est-à-dire notamment aider les entreprises européennes à investir davantage en Afrique, des investissements qui finiraient par générer de l'activité et donc des emplois. Il souhaiterait aider notamment tout ce tissu européen de PME européenne qui est très important et qui joue un rôle de dynamique, qui pourrait jouer une dynamique très positive en Afrique. Et il préconise aussi bien sûr de renforcer toutes les actions de formation et notamment d'élargir les programmes Erasmus, qui consisteraient donc à faire venir davantage d'étudiants africains en Europe pour les former.
Voilà, ce sont donc les grandes lignes. Pour l'instant, rien de très concret, rien de bien précis, Olivier Roger. Al Mokhtar, vous avez une autre question.
Voilà, je crains que les entreprises européennes dominent le marché africain. Alors, pourrait-il avoir des conséquences négatives sur les entreprises africaines ?
Olivier Roger.
Alors ça, c'est effectivement une crainte exprimée par beaucoup d'Africains. Jean-Claude Juncker est un bon libéral, on l'a vu, on l'a compris, et il considère que seul le commerce peut permettre l'enrichissement mutuel. Il propose donc à l'Afrique une zone de libre-échange continent avec continent, c'est-à-dire l'Europe et l'Afrique ensemble dans la même zone de libre-échange. On sait que les Africains sont, eux, engagés dans leur propre zone de libre-échange, la fameuse ZLEG dont on a beaucoup parlé sur cette antenne. Et déjà, ce n'est pas facile au niveau des Africains parce que tout le monde n'est pas d'accord.
On voit bien les Nigérians, par exemple.
Voilà, on voit bien les Nigérians. Juncker, lui, estime qu'on doit discuter d'égo à égo, que l'Afrique et l'Europe sont des partenaires égaux et de même poids et qui doivent donc commercer librement, sans entrave. Malheureusement, n'en déplaise à Monsieur Juncker, l'Europe et l'Afrique ne sont pas des partenaires égaux. Il y a un déséquilibre très important en faveur de l'Europe et bien évidemment les Africains le savent très bien et freinent des cas de fer cette notion de libre-échangisme. C'est tout l'enjeu des accords de partenariat économique que l'Union européenne propose aux pays africains depuis quelques années, qui serait la suite des accords de Cotonou. On sait que les accords de Cotonou prévoyaient la libre entrée des produits africains en Europe et conservaient des barrières pour protéger les marchés africains des produits européens. Les accords de partenariat économique, c'est mettre tout le monde sur un pied d'égalité, c'est-à-dire plus de barrières du tout. Et bien évidemment, les pays africains, comme le Nigeria en tête, mais il n'est pas le seul, redoutent de voir des pans entiers de leur industrie, de leurs services réduits à néant par l'arrivée massive de produits ou d'entreprises européennes. Donc il faut faire attention et les Africains ne sont pas aussi libéraux que Jean-Claude Juncker sur cette dimension des échanges entre les deux continents.
Dossier à suivre. Merci beaucoup Olivier Roger. Al-Mokhtar, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, on a répondu à mes questions, mais seulement je demande à tous les Africains d'être très très prudents.
Oui.
Il n'y a pas d'égalité entre l'Afrique et l'Europe.
Bon,
cette coopération peut être très nuisible pour nous.
Voilà qui est dit, Olivier Roger.
Effectivement, je pense que la prudence s'impose dans les relations internationales d'une façon générale.
Merci à tous les deux. Passez une bonne journée. Il est 10h17 à Paris. Vos questions 33 9 693 693 70. Bonjour Sylvie Thénault.
Bonjour.
Merci d'être de nouveau avec nous ce matin. Vous êtes historienne, directrice de recherche, spécialiste de la colonisation algérienne. Hier, faute de temps, nous n'avions pas pu prendre un dernier auditeur qui avait des questions à vous poser après la reconnaissance par l'État français de sa responsabilité dans la mort de Maurice Audin lors de la guerre d'Algérie. Koto Garanki est avec nous. Il nous appelle de Conakry. Bonjour.
Bonjour Wayne, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
Juan, le président français a reconnu que la France est responsable de la mort de ce militant communiste Maurice Audin.
Mm-hmm.
Alors Juan, je veux savoir si cela a un impact sur la reconnaissance en France de la responsabilité française ou d'autres crimes en Algérie et en Afrique.
Et en Afrique de manière plus large. Sylvie Thénault, rappelons pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, Maurice Audin, mathématicien, partisan de l'indépendance. Pendant 61 ans, sa famille et ses proches se sont battus pour connaître la vérité sur sa mort. Pendant toutes ces décennies, la version officielle affirmait que Maurice Audin avait disparu. La semaine dernière, donc, au nom de la République française, le président Macron a reconnu qu'il avait été torturé, puis exécuté par des militaires français qu'il avait arrêté à son domicile. Pensez-vous, en tant qu'historienne, que cette décision d'Emmanuel Macron peut avoir un impact sur la reconnaissance des autres crimes commis par la France, d'abord en Algérie ?
Alors, pour l'Algérie, on peut estimer qu'au plan symbolique, c'est une reconnaissance d'une portée générale. Bien sûr, toutes les violences extrêmes commises par l'armée française, je pense aux viols de femmes, aux massacres dans les villages quand il y avait des centres, des unités avec des fouilles. On peut aussi penser à l'usage du napalm qui a été utilisé en Algérie. Tout cela n'est pas nommément inscrit dans la déclaration qui part du cas de Maurice Audin. Donc, dans le texte, clairement, précisément, c'est la torture et les disparitions. Mais au plan symbolique, moi, il me semble qu'on peut aller plus loin et qu'il y a un geste fort qui peut être interprété comme une reconnaissance française, un pas vers une reconnaissance française. Au-delà de l'Algérie, ça me semble un peu compliqué d'envisager.
Pourquoi ? Beaucoup plus, oui. Pourquoi ? On pense notamment au Cameroun, pense également au Sénégal, il y a eu aussi Madagascar. Il n'y aura pas de reconnaissance française ?
Ben, je ne peux pas vous dire qu'il n'y en aura pas, mais vous savez, il y a un très très grand déséquilibre dans les approches de ce passé colonial. L'Algérie est totalement dominante, ce que je ne dis pas ça pour le regretter, hein. Mais de fait, l'impact de la colonisation de l'Algérie et de la guerre d'indépendance ont été extrêmement forts sur la société française. Vous avez tous les jeunes hommes qui ont été envoyés là-bas pour faire leur service militaire. Vous avez les pieds noirs qui sont revenus, vous avez beaucoup d'immigrés algériens, c'est l'immigration une des plus importantes dans l'histoire des migrations françaises. Donc tout ça fait que l'impact de l'histoire de l'Algérie est beaucoup plus fort que tous les autres. Alors moi, comme historienne, je suis la première à déplorer cette sorte de prédominance de l'histoire de l'Algérie dans l'histoire de la colonisation. Et effectivement, vous avez raison de mentionner Madagascar et l'insurrection de 47 avec sa répression terrible. Vous avez raison de mentionner le Cameroun où la répression de l'UPC a généré des méthodes exactement similaires à ce qui se faisait en Algérie. Mais dans la société française aujourd'hui, parce que quand même, cette reconnaissance, elle est venue d'une mobilisation dans la société française. Il n'y a pas beaucoup de gens pour porter ces histoires-là et porter des revendications.
Et contrairement à la guerre d'Algérie et à ces milliers de personnes qui ont disparu dans les deux camps.
Alors, ça, c'est une extension de la déclaration, effectivement, sur l'ensemble.
Allô, Sylvie Thénault, vous a-t-on perdu ? Un petit problème de téléphone. Ah, vous êtes nouveau avec nous, ça y est, oui.
Oui, excusez-moi.
Je vous en prie.
Non, sur l'ensemble de la guerre, je disais, c'est très difficile d'évaluer le nombre des disparus algériens du fait de la répression française, parce que les disparitions ne laissent pas de traces administratives. Tout ce qu'on a comme traces, ce sont les demandes que les familles font auprès des autorités, mais toutes les familles ne font pas des demandes en disant « mon père, mon cousin, mon frère, ma sœur, ma femme ont été arrêtés, ils ne sont pas revenus ». Donc c'est certainement beaucoup plus que des milliers, et un des milliers c'est Alger 57. Les autres disparus qui sont mentionnés dans la déclaration, c'est un contexte complètement différent. Les disparus français, ce sont des gens qui ont été enlevés par le FLN. Il y en a eu à la fin de la guerre en particulier, en 1962, des gens qui ne sont jamais revenus. Il y a des études, c'est là aussi assez difficile de chiffrer, mais on est dans des ordres de grandeur beaucoup plus faibles, qui se comptent plutôt en centaines, ça ne veut pas dire que c'est négligeable. Mais surtout, on est dans des systèmes complètement différents. Le FLN, ce n'est pas une république qui a une constitution, qui est la nation des droits de l'homme. Donc, c'était normal qu'il soit mentionné, parce que pour les familles, les effets sont les mêmes. Une famille qui a un disparu, quelle qu'elle soit, française, algérienne, l'effet est aussi terrible. Mais en termes de responsabilité de l'État, ça n'emporte pas les mêmes conséquences.
Sylvie Thénault, merci beaucoup d'avoir pris le temps, une fois de plus ce matin, pour répondre à nos auditeurs, et notamment à Toko Garanki, qui nous appelait de Conakry. 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur le sommet intercoréen qui se tient depuis hier à Pyongyang. Bonjour Delphine.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur l'antenne de RFI, nous vous écoutons, vous êtes au Bénin.
Exactement, plus précisément à Calavi.
Très bien, on vous écoute.
Eh bien, il y a effectivement un sommet actuellement à Pyongyang, les deux présidents coréens. À ce titre, j'ai deux préoccupations. La première, en quoi cette rencontre est-elle différente des autres ?
En quoi cette rencontre est-elle différente des autres ? C'est bien ça ?
Voilà. La dernière, quels en seraient les grands changements ?
D'accord. Juliette Morillo est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct. C'est vrai que c'est le troisième sommet entre les deux hommes en moins de 6 mois. En quoi cette rencontre est-elle différente des autres, nous demande Delphin. Déjà, c'est quand même la première fois depuis 11 ans qu'un président sud-coréen est dans la capitale nord-coréenne.
Alors oui, pour le coup, encore une fois, c'est une véritable rencontre historique. Il y a eu déjà des précédents quand même en 2000 et en 2007. Mais là, en effet, c'est la première visite de Moon Jae-in à Pyongyang. Alors, c'est très différents. Je vais simplement prendre pour exemple le motto des précédentes rencontres qui était une nouvelle ère, la paix, une nouvelle ère, un nouveau début. Là, c'est la paix, une nouvelle ère et le futur. Donc là, en fait, c'est très différent parce qu'on est dans le concret. Jusqu'ici, les deux Corées étaient en train de réapprendre à s'apprivoiser, à se parler, à discuter, à dialoguer. Et là, on est véritablement dans la construction. Et on le voit à l'issue de ces deux rencontres, vous avez une déclaration commune qui a déjà été faite. Alors, volonté de coopérer entre les deux Corées, de coopérer sur le plan militaire. Alors déjà, ils vont diminuer tout ce qui est zone démilitarisée, diminuer le nombre de postes de garde entre les deux Corées, créer une nouvelle zone de chaque côté qui sera une zone de paix, coopération économique, coopération touristique, culturelle, sportive. Donc tout ça est véritablement en train d'avancer. Et puis, ce qui est important, c'est que ça prépare le sommet entre Kim et Trump qui aura sans doute lieu au mois d'octobre.
Oui.
Et que la Corée du Nord, là, a promis de faire à nouveau des pas vers la dénucléarisation.
Ah bah, y a eu quand même...
promet le démantèlement quand même du site de Yongbyon.
Oui, ça a été annoncé ce matin par le dirigeant nord-coréen. C'est une avancée importante, justement, cette promesse.
Les deux promesses, c'est-à-dire le démantèlement du site de Yongbyon est une avancée importante parce que ce sera fait à nouveau avec des inspecteurs internationaux et puis la destruction du site de Tongchangni qui est à l'ouest de la Corée, qui est un site de lancement de missiles. Alors tout ça, ce sont des pas, mais il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont, c'est dans la déclaration aussi, soumis à une condition que les États-Unis, eux aussi, fassent des pas et le tout vers ce que souhaitent les deux Corées très profondément, c'est-à-dire la signature d'un traité de paix.
Oui, enfin, ce qu'attend Donald Trump, c'est que la Corée du Nord surtout dévoile l'inventaire de son arsenal et de ses installations nucléaires. Restez avec nous, Juliette Morillo, historienne spécialiste de la péninsule coréenne. Alpha a également une question à vous poser. Bonjour Alpha. Allô, allô. Alpha, êtes-vous là? On a des petits soucis de téléphone ce matin. Alpha qui revient sur l'ouverture il y a quelques jours d'un bureau de liaison en Corée du Nord, près de la frontière entre les deux pays. Juliette Morillo, Alpha nous demandait mais comment va fonctionner ce bureau exactement et quels seront ses objectifs? C'est un bureau, en quelque sorte, une représentation diplomatique commune, c'est ça?
Oui, c'est, en termes simples, c'est une sorte d'ambassade commune. Et pour le coup, c'est extrêmement, extrêmement important. Vous allez avoir à peu près une vingtaine de Nord-Coréens, donc des diplomates, et une vingtaine de Sud-Coréens qui vont travailler main dans la main. Vous allez avoir deux ministres, donc les communications vont, qui ont été rompues quand même pendant des années, vont avoir lieu 24 heures sur 24, chaque jour de l'année. Donc on a beaucoup moins le risque de dérapage, que ce soit militaire ou même verbal. La communication va être en permanente et je pense qu'ils vont démarrer par communiquer sur des projets relativement simples déjà, c'est-à-dire des projets sur les qui sont consensuels. Ils ont déjà prévu, ça se passe à Kaesong. Kaesong est une ancienne capitale de la Corée, une capitale médiévale. Donc, ils ont déjà des projets de restauration archéologique, artistique. Donc, on va démarrer par des petits projets consensuels et puis on va avancer ensemble, notamment sur le déminage de zones dans la DMZ, sur des rencontres entre le Nord et le Sud, organiser justement des rencontres pour les familles séparées. Donc, c'est absolument capital et ça va fonctionner. Et je pense que c'est une des avancées les plus importantes qui a été faite. Je pense de tout temps,
voilà.
Entre les deux Corées.
Voilà qui est dit. Merci beaucoup Juliette Morillo. Je rappelle votre dernier livre, Le Monde selon Kim Jong-un, publié aux éditions Robert Laffont. Ça se lit véritablement comme un polar. C'est un très beau livre que je vous conseille, vous auditeurs. Merci beaucoup Juliette Morillo et on salue évidemment Alpha qui nous écoutait avec son transistor. Il y a eu une coupure de téléphone pile au moment de passer à l'antenne. Ce n'est pas de chance. Alpha qui était d'ailleurs à Conakry. Vous qui nous écoutez à Conakry, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous serons sur place dans la capitale guinéenne Guinéenne pour l'enregistrement de 3 émissions en public au Centre culturel franco-guinéen. Je vous donne rapidement le programme. Le mercredi 26 septembre à 13h, émission spéciale à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Nous retracerons ensemble l'histoire contemporaine du pays. On verra comment la Guinée a géré son indépendance. Ensuite, nous parlerons des massacres du 28 septembre 2009. À Caen, un procès. Et puis le lendemain, jeudi 27 à 13h, toujours au Centre culturel, nous donnerons la parole exclusivement à la jeunesse. Restez avec nous, on revient dans 10 minutes juste après le journal et nous parlerons de la grève des fonctionnaires au Tchad.